Dr. John Oswald, Isaïe, Session 18, Isa. 36 à 37. Copyright 2024 John Oswald et Ted Hildebrand. C'est le Dr. John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 18, Isaïe chapitre 36 et 37. Très bien, prions ensemble. Père, comme nous nous réjouissons de ta présence parmi nous. En fin de compte, c'est tout. Si vous n'êtes pas avec nous, nous n'existons pas. Vous êtes la vie. Vous êtes l'espoir. Tu es la vérité. Tu es mon univers. Tout. Et nous témoignons que nous existons parce que vous pensez à nous. Vous êtes l'auteur et nous sommes les personnages. Vous racontez l'histoire et nous faisons partie de l'histoire et nous vous en remercions. Merci car grâce à Christ nous avons la vie, une vie abondante, maintenant et pour toujours. Pardonne-nous lorsque nous ne puisons pas dans notre héritage lorsque nous vivons des vies maigres, maigres et vides comme si tu n'existais pas. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler qui tu es et quelles sont tes ressources et à vivre pleinement ce que tu mets à notre disposition. Merci. Encore une fois nous te remercions pour ta parole et encore une fois nous te supplions, Esprit Saint, de venir appliquer ta parole dans nos cœurs. En ton nom, nous prions. Amen. Nous avons travaillé plus de la moitié du livre. Toutes nos félicitations. Nous avons vu dans les chapitres 1 à 6 l'appel au service. L'enfant semble inhabituellement tremblant. En 1 à 5, nous avons eu le problème. La nation est appelée à être le véhicule pur et pur à travers lequel Dieu peut atteindre les nations, mais en fait elles sont rebelles et brisées, amoureuses de tout ce qui est haut et exalté sur terre. Et donc, j'ai suggéré qu'Isaïe donne son propre appel comme solution à ce problème. Si la nation aux lèvres impures avait la même expérience que l'homme aux lèvres impures, alors ils auraient un message à annoncer aux nations comme il avait un message à leur annoncer. Ensuite, j'ai suggéré que 7 à 39 est la confiance. Confiance en Dieu. Faites confiance à la base du service. Appel au service. Faites confiance à la base du service. Entre 7 et 12 ans, nous n'avons constaté aucune confiance et les conséquences que cela implique. Puis entre 13 et 35 ans, nous avons vu des leçons de confiance. Ne faites pas confiance aux nations. Ne faites pas confiance à la puissance humaine et à l'exaltation, mais faites confiance à Dieu. Eh bien, ce soir, nous sommes prêts à recommencer à regarder l'autre côté du tableau. 36 à 39. Et le titre que je donnerai à ces quatre chapitres est la confiance, oui mais. D'accord. Je vous demande de regarder l'autre côté du tableau. Regardez 36 2 et 7 3. Qu'avez-vous découvert là-bas? C'est exactement le même endroit. L'endroit où Isaïe a défié le roi Achaz de faire confiance à Dieu en probablement 735. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, en 701 avant J.C., l'officier assyrien se trouve exactement au même endroit. Maintenant, cela devrait nous dire quelque chose. Cela devrait nous dire qu'en effet ces deux sections constituent une enveloppe. Ahaz, tu peux faire confiance à Dieu. Oh, je ne voudrais pas le mettre à l'épreuve. Ah non, non, non. Comme je l'ai dit à l'époque, la piété est souvent une merveilleuse excuse pour l'incrédulité. Non. Je ne mettrai pas Dieu dans un endroit où il doit faire ses preuves. Je ne mettrai pas Dieu moi-même dans une position où Dieu doit faire ses preuves. Voilà l'essentiel. Et donc Isaïe a dû dire à Achaz tout ce que vous faites confiance à la place de Dieu, et bien sûr, il avait mis sa confiance en Assyrie, tout ce que vous faites confiance à la place de Dieu se retournera un jour contre vous et cette Assyrie à laquelle vous faites confiance maintenant. Le jour va inonder cette terre jusqu'au nez. Et c'est là que nous en sommes avec le chapitre 36. L'Assyrie est arrivée. Ils ont parcouru la côte et se sont rendus jusqu'en Philistie, au sud-ouest de Juda. Je pense que je deviens moins bon en dessin de cartes. Juda, rappelez-vous, est situé ici sur cette crête centrale qui s'étend en quelque sorte dans cette direction et dans cette direction. Et la route côtière descendait le long de la Galilée, traversait la vallée de Jézréel, passait par cette crête au passage de Megiddo et descendait ensuite la côte. Les villes philistines se trouvent ici. Cinq d'entre eux. Et à bien des égards, il constitue le dernier obstacle au but ultime de l'Assyrie, l'Égypte. Mais évidemment, les Assyriens ne peuvent pas laisser Juda ici derrière eux. Sinon, les Judéens pourraient faire une sortie et couper les lignes d'approvisionnement. Je ne peux pas avoir ça. Ainsi, pendant que les Assyriens nettoient les Philistins, ils nettoient également Juda. Et la Bible nous dit qu'ils avaient pris 46 forteresses en Juda. il n'en reste que deux. L'une d'entre elles est ici, sur la route qui monte à Jérusalem, et c'est la ville de Lachish ou Lachish. Et les Assyriens assiégèrent alors Lachish. Si vous êtes allé en Israël, vous savez que c'était une grande ville. En fait, c'était probablement un peu plus grand que Jérusalem. Bien fortifié, évidemment, s'il veut prendre Jérusalem, il doit prendre celle-ci. Il y a donc 48 forteresses en Juda. Il en a pris 46. Il est sur le point d'en prendre 47. Il aimerait économiser un peu d'argent. Les sièges coûtaient horriblement cher. Maintenir une armée en place toute l'année. Généralement, ces armées attaquaient au printemps, en été et au début de l'automne, puis se retiraient, ne laissant derrière elles que des garnisons. Mais on ne pouvait pas faire ça avec un siège. Il fallait laisser cette armée là-bas toute l'année. Et les soldats ont tendance à manger. Alors, économisons un peu d'argent. Envoyons les commandants sur le terrain. Envoyons le commandant sur le terrain. Troisième responsable. Le Rab Chaka. Envoyons le là-haut et demandons-lui de persuader ces pauvres gloussements de se rendre. Économisez-nous beaucoup d'argent et de temps. Et nous pouvons passer à ce que nous recherchons réellement. Juda, ils n'ont rien que nous voulions vraiment. Nous devons simplement les affronter pour être sûr qu'il n'y a personne derrière nous pendant que nous descendons vers notre objectif ultime. Alors, combien de fois les mots de confiance apparaissent-ils dans le discours de Rab Chaka? Les as-tu comptés? 9. Ouais. Certains sont implicites. Il y en a 6 qui sont des occurrences explicites de mots pour la confiance. Certaines de vos traductions peuvent s'appuyer sur d'autres types de choses. Et si vous comprenez toutes les implications, vous en avez 9. Alors, des questions sur le problème ici? Le problème est une question de confiance. Alors, à qui est-il la première chose à laquelle il dit que vous faites bêtement confiance? D'accord. Égypte. Et votre propre pouvoir grâce à cette défense. Et que dit-il de l'Égypte? Oui. Oui. Encore bien sur l'Égypte sur la vallée du Nil. Il y a beaucoup de roseaux là-bas. Gros roseaux. Gros roseaux épais. Mais un roseau n'est pas un très bon bâton de marche. Parce qu'un roseau se brisera. Donc, vous vous appuyez sur cette chose et elle se brise et vous poignarde à l'aisselle. C'est l'Égypte. Donc, si vous faites confiance à l'Égypte. Si vous faites confiance à votre propre stratégie. Verset 5. Pensez-vous que de simples mots constituent une stratégie et un pouvoir de guerre? Non, cela ne vous servira à rien. Faites-vous confiance à l'Égypte? Ce roseau brisé qui transperce la main de quiconque s'appuie dessus? Quelle est la prochaine confiance qu'il ridiculise? Confiance en Dieu. Maintenant, pourquoi dit-il que cela va les faire échouer? Il pense connaître Dieu. Qu'a fait Ézéchia qui, selon lui, pose problème? Il a démoli toutes les églises locales de Yahweh. C'est exactement ce qu'il était censé faire. Maintenant, vous vous souvenez que le problème est que les dieux étaient adorés sur les hauts lieux. Les sommets des collines. Ainsi, dit-il, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. C'est là que les dieux étaient adorés. Il est donc assez clair que ce que les gens ont été tentés de faire, c'est de retirer Dieu et de le remplacer. Maintenant, vous vous souvenez, est-ce que quelqu'un peut penser quel est le problème avec ça? Si vous adorez Dieu sur chaque sommet d'une colline, quel est le problème? Je veux dire, c'est Dieu. Quel est le problème potentiel? Concours. Exactement. De hockey. D'accord. Les John adorent le Yahweh de Wilmore. Mais j'adore le Yahweh de Nicholasville. Ce qui se passe, c'est que vous commencez à diviser Dieu par emplacement. Ainsi, même si vous vous êtes débarrassé des dieux en remplaçant simplement Dieu par les dieux, vous avez toujours un problème. Et ainsi à partir de Salomon et probablement avant Salomon, mais néanmoins, il y a eu une certaine tentative de faire ce que disait le Deutéronome. Et le Deutéronome dit que vous adorez Dieu en un seul endroit. Il semble que jusqu'à l'époque d'Élie et d'Ichabod et de la destruction, le seul endroit où ils adoraient était Shiloh. Shiloh est à environ 15 milles au nord de Jérusalem, dans le territoire d'Éphraïm. C'est là qu'Anna est allée. C'est là que Samuel a servi. Mais il semble que ce tabernacle en mosaïque ait été incendié par les Philistins. Vous vous souvenez que les Philistins arrivent et que tout le monde est mort de peur, alors ils décident de se procurer leur pâte de lapin préférée, l'Arche d'Alliance, de la retirer et de l'utiliser sur le champ de bataille. Cela va sûrement effrayer les Philistins. Eh bien, c'est le cas. Ils leur ont fait peur comme la Géorgie a eu peur, le Kentucky a fait peur à la Géorgie. Cela leur a fait assez peur pour vraiment jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Les Philistins les ont vaincus et ont capturé l'arche. La manière de Dieu de montrer que je ne suis pas une patte de lapin. Et Samuel n'en parle pas, mais Jérémie le fait. Jérémie dit que je peux incendier ce temple de Jérusalem tout comme j'ai incendié le tabernacle de Silo. Et il semble que vous ayez environ 75 ans de chaos où les gens construisent des tabernacles partout. Vous savez que c'est leur opportunité. Le tabernacle en mosaïque a disparu. Faisons une petite caisse. Ayons notre propre tabernacle local. Donc, à partir de là, il semble que ce business avec les hauts lieux est en quelque sorte proliféré et finalement, Ézéchia dit, et, tu sais quoi? La Bible dit que vous n'êtes pas censé faire cela. Ézéchia s'est donc débarrassé de tous ces hauts lieux yahouistes. Ces hauts lieux étaient l'endroit où une certaine forme de Yahweh était adorée. Alors, qu'en dit le Rabshakeh? Yahvé n'est pas content de cela. Je veux dire mec, Ézéchia a détruit toutes les églises locales. Allez-vous faire confiance à Yahweh? Yahweh est en colère contre toi. Une fois de plus, je suis très impressionné par le travail de fond effectué ici par le ministère des Affaires étrangères assyrien. Il est plutôt bien préparé, mais il ne comprend pas la religion biblique. Si quelqu'un avait fait cela en Assyrie et détruit tous ces lieux locaux où l'on adorait les dieux auraient évidemment été furieux. Donc, Yahweh doit être furieux aussi. Il ne comprend pas. Très bien, continuons ici. Alors, que propose-t-il de faire au verset 8 et 9? Il propose de lui donner des chevaux. N'oubliez pas qu'à ce stade, le cheval reste l'arme secrète. Les choses sont en train de changer à ce stade. C'était le cheval et le char où vous aviez un conducteur et si vous êtes assyrien, c'est un char à trois hommes, un archer pour l'artillerie à longue distance et un lancier pour une courte distance. Mais les choses changeaient du côté de la cavalerie. Ils apprenaient à monter les chevaux et à les combattre, ce qui leur donnait beaucoup plus de mobilité. Alors, il dit tu sais, et si tu as un problème, tu n'as pas assez de chevaux, et je te donnerai des chevaux. C'est comme le golfeur qui dit, et, je vais te donner 25 coups et je te bats quand même. C'est ce qu'il dit. Je te donnerai 2000 chevaux et nous te fouetterons quand même. Si vous faites confiance à la puissance militaire. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre stratégie, vous ne pouvez pas faire confiance à l'Égypte, vous ne pouvez pas faire confiance à Yahweh, vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre puissance militaire, et enfin regardez ce qu'il dit au verset 10. Yahvé nous a envoyés. Encore une fois, j'ai le sentiment que quelqu'un a fait ses devoirs. Vous savez, et, vous savez ce que disent leurs prophètes? Leurs prophètes disent que Dieu les envoie. C'est fou mais bon s'ils y croient, c'est Yahweh qui nous a envoyés. Alors, les ambassadeurs disent, pourquoi ne nous parlez-vous pas en araméen? À cette époque, l'araméen était le terme utilisé, c'est la lingua franca, la langue des affaires. Dans tout l'empire assyrien, l'araméen qui était la langue de la Syrie, Damas. Et probablement la raison pour laquelle c'est si important est que c'est devenu en quelque sorte la norme parce que c'était en quelque sorte au milieu de l'empire. Vous avez Babylone ici, vous avez Damas ici, vous avez l'Égypte là-bas et alors écoutez, parlez-nous simplement dans le langage diplomatique et que dit-il? Certainement pas. J'ai pris des cours d'hébreu et je vais parler à ces gens sur le mur ici qui vont nous écouter. Et bien sûr, le langage est plutôt grossier, n'est-ce pas? Ces gens qui sont condamnés à manger leurs propres excréments et à boire leur propre urine ont besoin de savoir ce qui les attend. C'est un siège. Je ne pense pas que nous puissions comprendre l'horreur d'un siège. Les villes fortifiées étaient capables de contenir confortablement 25 ou 30 000 personnes et il y a encore 50, 60, 70 000 personnes vivant dans des tentes à l'extérieur, et voici l'ennemi. Où vont ces 50, 60 ou 70 000 personnes? À l'intérieur de ces murs. En très peu de temps, la vie à l'intérieur des murs est devenue insupportable. Et si le siège a duré 2 ou 2 ans et demi, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela a été. Donc, dit-il, ces gens ont besoin de savoir. Je vais leur parler en hébreu. Encore une fois, ces Assyriens sont très minutieux. Un peu comme les Allemands. Alors remarquez ce qu'ils n'appellent jamais Ézéchia. Ils ne l'appellent jamais roi Ézéchia. Regardez le verset 13. Écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie, Ainsi parle le roi, ne vous laissez pas tromper par Ézéchia. Pas le roi Ézéchia. Ce pinque d'Ézéchia, ne le laisse pas te tromper. Nous parlons ici du roi, les amis. Il s'agit d'une guerre psychologique. Alors, au verset 15, à quoi ne devrait-il pas faire confiance? Le Seigneur. Il ne devrait pas se fier aux paroles d'Ézéchia, le Seigneur nous sauvera. Parce qu'il ne le fera pas. Ne l'écoutez pas. À qui devriez-vous faire confiance selon les versets 16 et 17? Nous, les Assyriens. Je veux dire, et, nous allons t'emmener dans un endroit plus agréable que celui-ci. Vous aurez tous votre propre vigne et votre propre figuier. Vous boirez l'eau de votre propre citerne. Et je vais vous emmener dans un pays bien plus agréable que cet endroit rocheux. Fais-moi confiance. Achèteriez-vous une voiture d'occasion à cet homme? Venons-en maintenant à l'essentiel. Verset 18. Pourquoi le Seigneur sera-t-il incapable de les délivrer? Aucun autre Dieu n'en a et Yahweh n'est qu'un Dieu de plus. Voici l'essentiel. Non, Yahweh ne les a pas envoyés. Non, Yahweh n'est pas contrarié parce qu'ils ont détruit toutes les églises locales. Yahweh est impuissant. C'est l'essentiel. Maintenant, je veux que vous sachiez qui a détruit ces autres dieux. Qu'est-ce que ça dit? Verset 19. Ont-ils délivré Samarie? Quoi? Samarie. Quoi? Samarie. Quoi? Samarie. Hors de ma main. Qui est mon? Le roi d'Assyrie. Il ne s'agit pas d'un duel entre les dieux assyriens et le dieu israélite. Il s'agit d'un duel entre l'empereur assyrien et votre dieu. Les dieux de l'Assyrie n'entrent jamais dans cette discussion. Il s'agit du grand roi. Et le grand roi a détruit tous les autres dieux et il va aussi détruire votre dieu. Là encore, il avait une petite raison de dire cela. Je veux dire, Samarie, ils avaient des dieux, n'est-ce pas? Les taureaux d'or. À quoi ces dieux ont-ils fait à Samarie? Aucun. Encore une fois, il n'a pas compris. Le dieu de Jérusalem n'est pas un taureau d'or. Le dieu de Jérusalem est le créateur de l'univers. Mais un homme peut s'opposer à lui et le faire tomber. Lequel de tous les dieux de ces pays a délivré leur pays de ma main, pour que Yahweh délivre Jérusalem de ma main? C'est l'essentiel ici. Tout au long de cet article, nous avons parlé de l'auto-exaltation humaine. Cela remonte au chapitre 2 et même au chapitre 1 contre l'exaltation de Yahweh. Alors je le répète, ce n'est pas un argument motivé. Il ne fait que les cancaner avec des trucs. Ne faites pas confiance à votre propre stratégie. Ne faites pas confiance à l'Égypte. Ne faites pas confiance à Yahvé. Pourquoi? Parce que Yahvé m'a envoyé. Pourquoi? Parce que Yahweh est en colère contre toi. Si vous pensez être fort, nous vous donnerons des chevaux. Et en fin de compte, Yahweh ne peut pas vous aider. Et nous sommes des gens très gentils. Faites-nous confiance. Il ne s'agit pas d'un argument raisonné qui soit entendu. Il ne fait que les cancaner. Maintenant, je pose la question ici, 36, 11, 22, numéro 2. Et j'ai dit de revenir au verset 10. C'est là qu'il dit que Yahweh nous a envoyés. Maintenant, il dit ici que Yahweh est impuissant. Cela nous dit ce qu'il pensait réellement. Alors pourquoi a-t-il introduit le verset 10 dans le sujet? Pourquoi a-t-il dit, eh bien, Yahweh est en colère contre toi. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur la tactique de l'ennemi lorsqu'il nous tente? Il me semble qu'il y a de l'espoir que vous les nourrissiez pour qu'ils puissent les attaquer physiquement parce qu'ils sont tous diacres. Et c'est ce qu'il fait ici. C'est comme si plus il pouvait leur faire ne pas croire en Dieu en leur disant que Dieu est bon, mais que va-t-il vraiment faire? Il les a tous confondus et il essaie de les vaincre psychologiquement. Eh bien, pour faire le lien avec cela, il montre sa connaissance de Yahweh, ce qu'ils croient, et ils le retournent contre eux. Et dans la mesure où ils utilisent même, et je vais vous le demander, y a-t-il un autre ennemi que nous connaissons dans les archives qui utilise réellement le nom de Yahweh contre Juda? Non. En fait, ils utilisent le nom dans leur langue et cela doit être dévastateur. Ouais. Oui. 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 Et c'est exactement ça. L'ennemi essaie de nous déséquilibrer. Il nous confond. Il utilise des trucs qui sonnent plutôt bien si vous n'y avez pas vraiment réfléchi. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Jésus. Cela a fonctionné avec Ève. Ça a marché avec Ève, ouais. Mais vous savez, il utilise les écritures avec Jésus. Oh, tu veux faire des écritures? Je peux faire les écritures. C'est à ce moment-là que nous lui avons laissé la possibilité de commencer à s'embêter avec nous. Il va essayer de nous déséquilibrer tout le temps et de nous faire tomber. Et ce que cela signifie, c'est pourquoi il est si nécessaire que nous soyons tout le temps dans les bras de Jésus. Sortez de sa protection. Et c'est Ézéchia contre le grand roi. Oui. Et il utilise également Ézéchia. Ouais. Ouais. C'est donc à ce moment-là que j'essayais de créer des divisions. Ouais. Ouais. Oui. Vous regardez ceci, ou moi le faisons, pouvez-vous imaginer la préparation qui a été nécessaire? Exactement. Exactement. Il devait avoir toutes sortes de conseillers dans différents domaines. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et écrire un scénario à ce type. Ouais. Ouais. Et il avait appris l'hébreu. Je veux dire, c'est la Syrie. Peu importe la langue que parle ce petit groupe. Si cela peut nous aider à comprendre notre point de vue, nous ferons le travail. Ouais. Il arrive souvent que l'autre partie soit bien meilleure que nous dans ses devoirs. Nous dépendons en quelque sorte du Seigneur, donc nous ne faisons pas nos devoirs. De l'autre côté, c'est le cas. Ils font. Vous voyez cela beaucoup dans les études bibliques. Que ces gens qui ne croient en rien n'ont fait leur devoir. Mais oui, exactement. Exactement. Le ministère des Affaires étrangères assyrien devait être autre chose. En termes de, s'ils faisaient cela pour tout le monde, et je pense qu'ils l'ont fait. Ouais. Ils connaissaient les prophètes et leur disaient de ne pas faire confiance à Jésus. Exactement. Ils retenaient donc ce que les prophètes avaient dit. Ouais. 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 Et il en savait assez pour savoir que certains prophètes avaient dit que le Seigneur amènerait ses nations ennemies. Il ne le comprend pas, mais il le sait. Il a appris sa leçon. Même s'il ne comprend pas la leçon. D'accord. Ainsi va l'ambassade. Et je vous demande de revenir sur le chapitre 22. Au chapitre 22, Shevna était à la tête de la maison. Et Isaïe avait dit, parce qu'il travaille sur son tombeau, au lieu de regarder la condition déchue de la nation, Dieu allait le faire tomber et remettre Eliakim à sa place. Eh bien, cela s'est produit ici, n'est-ce pas? Verset 22. Et Eliakim, fils de Hilkija, était à la tête de la maison. Comme je vous l'ai dit, je pense que cela signifie premier ministre. Ce n'est pas le majordome. Ézéchia n'a pas envoyé son majordome pour parler à ce type. C'est le premier ministre. Fait intéressant, Shevna est toujours sur la photo, n'est-ce pas? C'est lui le secrétaire maintenant. Il a été rétrogradé. D'accord. Donc, chapitre 37. Que fait Ézéchia? Il s'humilie. Numéro 1. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est couvert d'un sac. Que fait-il ensuite? Il entre dans la maison du Seigneur. Et que fait-il ensuite? Il a envoyé un message au prophète. Ouais. Ouais. C'est humilié. Je suis allé dans la présence de Dieu. Consultez l'homme de Dieu. Il est difficile de battre cette prescription lorsque vous êtes en difficulté. Il connaissait le repentir. Il savait où aller. Il savait à qui parler. Ainsi parle Ézéchia, verset 3. C'est un jour de détresse, de réprimande, de disgrâce. Les enfants sont arrivés au point de naissance et il n'y a pas de force pour les mettre au monde. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Isaïe est une symphonie. Ses motifs apparaissent et disparaissent. Et puis ils réapparaissent sous une forme légèrement différente. Et cette idée d'arriver au point de naissance est l'un de ses thèmes. Nous allons le voir apparaître deux ou trois fois ici. Je crois que je m'entends quelque part en arrière-plan. Nous sommes arrivés au point d'accoucher. Et nous n'avons pas la force de le faire. Bien entendu, cela était tragiquement fréquent à cette époque. Une femme, peut-être, qui a travaillé 30 ou 40 heures. Et elle expire tout simplement, incapable de donner naissance à l'enfant. Nous sommes impuissants. Nous sommes arrivés au point où quelque chose doit être fait. Il doit y avoir une délivrance ici. L'enfant doit être accouché et nous ne pouvons pas le faire. C'est un très bon endroit où venir. Tant que vous pensez pouvoir vous sauver, vous ne le pouvez pas. Il se peut que le Seigneur votre Dieu. Eh bien, je pense que c'est plutôt intéressant. Il n'est pas dit, Seigneur mon Dieu, Seigneur ton Dieu. Il fera mieux ici avant la fin du chapitre. Je trouve ça plutôt intéressant. Isaïe, veux-tu parler à ton Dieu, s'il te plaît? Et vois si tu peux faire quelque chose pour nous. Il a intérêt à être votre Dieu et pas seulement le Dieu de quelqu'un d'autre. Que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyé pour se moquer du Dieu vivant. Or, cette expression n'apparaît pas très souvent dans la Bible. Mais quand c'est le cas, c'est une déclaration très, très importante. Vous voyez, les dieux sont sans vie. Parce qu'ils sont fabriqués par des mains humaines. Tout ce que nous avons fait pour nous sauver échouera. Parce qu'on ne peut pas lui donner vie. Seul le Je suis a la vie à donner. Toute autre vie dans l'univers est dérivée. Dérivée de sa vie. La seule vie que nous pouvons donner est celle que nous avons reçue de lui. Ainsi, le Dieu vivant est le Dieu qui entend. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Le Dieu qui voit. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Le Dieu qui agit. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent rien faire. L'un des grands oxymores de la Bible. Il n'a pas d'oreilles. Oh, mais il n'a pas d'yeux. Oh, mais il voit. Il n'a pas de mains. Oh, mais il agit. Et ainsi, Ézéchiel a compris. Quel est le problème ici? Cet être humain pense qu'il peut affronter le Dieu vivant. Certainement pas. Alors, dit Isaïe, n'ayez pas peur. Et je pense qu'il y a un peu de moquerie en retour ici. N'ayez pas peur à cause des paroles que vous avez entendues. Avec quoi les jeunes gens du roi d'Assyrie m'ont injurié? Les garçons. Je ne pense pas que Rabshakeh aimerait être traité de garçon. Je vais mettre un esprit en lui pour qu'il entende une rumeur et retourne dans son propre pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. Regardez à la toute fin du chapitre 37. Verset 38. Le verset 37, en fait. Puis Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et revint chez lui et s'établit à Ninive. Et pendant qu'il adorait dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramlek et Charizé, ses fils, le frappèrent avec l'épée. Après leur fuite vers le pays d'Arara, Esaradon, son fils, régna à sa place. C'est 19 ans plus tard. Mais j'adore la ligne, les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent extrêmement bien. Cela a pris 19 ans, mais c'est arrivé. Il va retourner dans son propre pays. Il l'a fait immédiatement après la défaite, après la mort de l'armée. Mais 19 ans plus tard, dans son propre pays, il fut tué par l'épée. Et dans son temple. Tout en adorant son Dieu. Ouais. 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 D'accord, c'est donc ce que dit Isaïe. Ainsi, le Rabshakeh revint. Il a donné son message. Je n'ai pas reçu de réponse. Il redescend donc vers le sud-ouest, en direction de Laki, où se trouve l'armée assyrienne. Et il découvre que, enfin, le roi égyptien a décidé de faire une sortie. Eh bien, en fait, il est sorti et est reparti. Mais cela a probablement donné de l'espoir aux gens. Ah, ok, enfin, tout cet argent qu'on a envoyé en Égypte pour faire une alliance avec eux, enfin ça va payer. Les Égyptiens vont sortir et tout ira bien. C'est peut-être la fête dont il a été question au chapitre 22. Mais le roi d'Assyrie envoie une lettre à Ézéchia. Verset 10. Ne laissez pas votre Dieu, en qui vous avez confiance, vous tromper en promettant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Et il revient sur ce même argument. Vous savez ce que j'ai fait à tous les autres dieux. En quoi pensez-vous que votre Dieu est différent? Alors, Ézéchia, cette fois, fait encore mieux. Il monta à la maison du Seigneur et étendit la lettre devant le Seigneur. Et Ézéchia pria le Seigneur. Yahweh, 3 fois dans ce verset. 3 fois en 20 mots environ. Ô, Seigneur des armées du ciel. N'oubliez pas, ayez cela en tête lorsque vous voyez des hôtes. Nous parlons d'hôtes célestes. Nous parlons de Dieu qui a un pouvoir universel absolu. Toutes les puissances de l'univers. Les étoiles des cieux lui appartiennent. Et il peut concentrer ce pouvoir sur n'importe quelle situation. Ô, Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui trône au-dessus des chérubins. Certaines personnes ont dit que l'Arche d'Alliance était en réalité une sorte de trône de Dieu. Et c'est vraiment tout ce que c'était. ce n'était qu'un trône. Il n'est pas dit qu'il trône sur les chérubins. Il est dit qu'il trônait au-dessus des chérubins. Son trône est invisible à moins que vous ne soyez Isaïe. Et puis vous le voyez une fois. Trônant au-dessus des chérubins. Vous êtes le Dieu. Toi seul de tous les royaumes de la terre. Tu as fait le ciel et la terre. La création est si importante. Nous n'avons pas créé Dieu. Dieu nous a créés. Inclinez votre oreille et écoutez. Ouvrez les yeux et voyez. Et écoutez toutes les paroles de Sennachérib, qu'il a envoyées pour se moquer du Dieu vivant. En vérité, ô Seigneur, les rois d'Assyrie ont ravagé toutes les nations de leur pays. Ils ont jeté leur Dieu au feu. Pourquoi? Il n'y a pas de Dieu. Ouais, il a raison. Mais ce n'étaient pas des dieux qu'ils combattaient. C'étaient des idoles. Des idoles sans vie. Mais le travail des mains des hommes. J'ai parlé dans tellement d'endroits différents récemment. Je ne me souviens pas quand j'ai dit quoi à qui. Et j'ai cette horreur de simplement répéter ce que j'ai déjà dit. Mais le redoublement est l'âme de l'éducation. Oui, d'accord. Dieu nous a créés à son image. L'idolâtrie, c'est quand nous créons Dieu à notre image. Réduire le pouvoir divin à notre contrôle. Rendre Dieu gérable pour nos objectifs. Maintenant, j'adore le verset 20. Supposons que vous soyez Ézéchia. Vous avez fait votre prière. Vous avez dit, oui, c'est vrai, mon Dieu. Ils ont détruit tous les dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Tu es Dieu. Donc vous n'arrivez pas à votre conclusion. Quelle sera votre conclusion? Pourquoi Dieu devrait-il vous délivrer? Eh bien, parce que vous êtes de si bonnes personnes. Parce que tu as été si fidèle. Parce que vous le méritez. Que dit-il? Il ne s'agit pas de nous, Seigneur. C'est à propos de toi. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu a dit, wow. Quelqu'un l'a compris. À propos de nous, Seigneur. Quoi qu'il en soit, Ézéchia a échoué, et il l'a fait, cette fois, il a réussi. Oh, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Pas parce que je le mérite. Pas parce que je l'ai mérité d'une manière ou d'une autre. Mais pour que le monde le sache. Et vous voyez, cela remonte au chapitre 2. Toutes les nations vont venir à Jérusalem pour apprendre sa Torah, ses instructions. Marcher dans la voie du Seigneur. Si, Jérusalem se transforme en visage de Dieu. D'accord, continuez. Isaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchia, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que vous m'avez prié au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie, voici la parole que l'Éternel a prononcée à son sujet. Elle te méprise. Elle te méprise, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête derrière ton dos, la fille de Jérusalem. Voilà la photo. Voici cet homme monstre qui va violer cette petite fille sans défense. Et elle dit, cette petite fille sans défense, cette fille vierge, elle se moque de toi. Tu t'es moqué d'elle, mon Dieu, elle se moque de toi. Ouah. De qui vous êtes-vous moqué et injurié? Contre qui avez-vous élevé la voix? Élevez les yeux vers les hauteurs? Vous vous souvenez de ce que dit le chapitre 2? Les yeux élevés seront baissés. Et le voici. Contre le Saint d'Israël. Celui qu'Isaïe a vu. L'ourlet de la robe remplissait le temple. Le seul être vraiment saint dans l'univers. Celui qui est vraiment autre. Qui s'est donné à un peuple qui ne le mérite pas. Mais juste par pur amour, il l'a fait. C'est celui-là dont vous vous êtes moqué. Pas intelligent. Pas intelligent. Maintenant, c'est fascinant. Versets 24 et 25. Il semble qu'Isaïe ait fait ses devoirs. Parce que cette langue ressemble beaucoup aux animaux assyriens. Tous ces empereurs. Ils publiaient des rapports sur leurs accomplissements sur les murs du temple. Et c'est exactement ce qu'ils disent. Avec mes nombreux chars, je suis monté sur les hauteurs des montagnes. Aux confins du Liban. Abattre ses plus hauts cèdres. C'est le cyprès le plus choisi. Pour atteindre ses hauteurs les plus reculées. C'est la forêt la plus fertile. J'ai creusé des puits et bu de l'eau. J'ai asséché les ruisseaux de l'Égypte avec la plante de mon pied. Maintenant, je ne sais pas si Isaïe avait fait quelques recherches ici. Ou si c'est juste le Saint-Esprit. Mais c'est intéressant. Si le rabbin Sheka connaît Judas. Isaïe connaît la Syrie. Maintenant, le voici. Verset 26. N'avez-vous pas entendu dire que je l'ai déterminé il y a longtemps? J'ai planifié depuis des temps anciens ce que je réalise maintenant. Que vous fassiez écraser les villes fortifiées en monceaux de ruines. Verset 28. Je sais que tu es assis. Et vous sortez et entrez. Et vous êtes en colère contre moi. Parce que tu es en colère contre moi. Et votre complaisance est parvenue à mes oreilles. Je te mettrai un crochet dans le nez et mon mors dans ta bouche. Et je te ferai rebrousser chemin par où tu es venu. C'est l'image de l'exil. Les Assyriens se vantaient d'entraîner les gens en exil avec des hameçons. Et avec des mors et des brides. Vous allez avoir le vôtre. Alors, quel est le péché de Sennachérib selon cette déclaration? Hauteur, fierté, arrogance. Yéyé. Voici un autre de ces motifs du livre d'Isaïe. Qui est celui qui est exalté dans l'univers? Yahvé seul. Aucune de ces créatures. Exaltez la créature et abaissez Yahweh. Et vous vous retrouvez avec un univers dénué de sens. En nous-mêmes, nous n'avons aucun sens. Exactement là où se trouve la philosophie de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. La vie n'a pas de sens. Vous créez votre propre sens. Et une signification en vaut une autre. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, je parle du signe qu'il donne là. Et la promesse alors en 33. Il ne viendra pas dans cette ville ni n'y tirera une flèche. Ou bien venez devant lui avec un bouclier ou lancez une monture de siège contre lui. Par la façon dont il est venu, par la même, il reviendra. Il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Car je défendrai cette ville pour la sauver. Pour mon propre bien et pour le bien de mon serviteur David. 37.26 Revenez en arrière et regardez le chapitre 14. Versets 24 à 27. Et comparez les deux. Que dit Dieu à propos de la Syrie au chapitre 14? Je l'ai prévu. Je l'ai proposé. Verset 26. C'est le but qui est prévu concernant le monde entier. Chaque fois que la Syrie apparaît. Se vanter de ce qu'ils ont accompli et de ce qu'ils ont fait. Dieu dit, tu ne comprends pas? Cela fait partie de mon ancien plan. Vous vous conformez simplement à mon plan. Maintenant, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai. J'espère que vous avez ce merveilleux mélange. Entre le libre arbitre humain. Non, les Assyriens ne sont pas des marionnettes. Et Dieu tire les ficelles. Et ils font ce qu'ils sont censés faire. Non, ils font ce qu'ils font de leur plein gré. Mais leur libre arbitre est conforme à ce que Dieu a prévu. Maintenant, vous dites, comment faites-vous pour maintenir ces deux-là ensemble? Ce n'est pas le cas dans un cerveau humain. Mais la Bible le fait. Et nous ne pouvons faire de compromis sur aucun des deux côtés. Non, Dieu n'est pas assis au ciel et dit. Oh mon Dieu, je me demande ce qu'ils vont faire ensuite. Mais il n'est pas non plus le marionnettiste. Qui nous fait sauter en tirant les ficelles? Quelque part dans le mélange entre ceux-là. Les desseins de Dieu vont se réaliser. Mais toi et moi avons des choix incroyables. Dans la manière dont nous allons faire partie de ce plan. Et comment nous allons nous y conformer. D'accord. Donc. C'est tellement intéressant d'avoir cette longue accumulation. Et puis un coup. Et l'ange du Seigneur sortit. Et il en tua 185 000 dans le camp des Assyriens. Et quand les gens se levèrent tôt le matin. Voici, c'étaient tous des cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et rentra chez lui. Je voudrais aussi. Maintenant, deux choses intéressantes et je vous laisse partir. Nous avons les annales de Sennachérib. Ou dans la tradition classique des empereurs assyriens. Il rapporte toutes ses réalisations. Il raconte comment Ézéchia était ce roi de Juda. Il avait organisé une coalition. Avec les nations restantes là-bas. Moab, Édom, les Philistins et Juda. Et donc, il dit que je suis allé les punir. J'ai attaqué les Philistins. Je les ai détruits. J'ai dépouillé Juda de toutes ses forteresses. J'ai capturé la plus grande forteresse de toutes, Laki. Et quant à Ézéchia, je l'ai enfermé comme un oiseau en cage. Passons maintenant à ma prochaine glorieuse campagne. J'ai décidé d'aller vers l'est. Ce qui s'est passé? Normalement, c'est celui qui a organisé la coalition que vous recherchez. Et il meurt d'une mort lente et horrible. Juste comme une leçon pour n'importe qui d'autre. Qui pourrait avoir une idée aussi stupide? Quant à Ézéchia, je l'ai enfermé comme un oiseau en cage. Vous n'avez pas détruit Jérusalem, hein? Je me demande pourquoi. Nous savons pourquoi. Mais bien sûr, il ne va pas le dire à son Dieu. L'autre chose intéressante est, comme j'ai dit, Sennachérib resta sur le trône pendant encore 19 ans. Il n'a plus jamais fait campagne en Occident. Rappelez-vous quel est leur objectif ultime. Leur objectif ultime est l'Égypte. C'est ce qu'ils recherchent depuis toujours. Eh bien, moi non plus. Si j'avais perdu toute une armée une nuit, jouer avec cette créature de Yahweh, je n'irais pas là-bas non plus. Pouvez-vous faire confiance à Dieu? Au mon oui. Au mon. Et ainsi dans ces chapitres. D'une manière réelle. Tout le déroulement du livre va jusqu'à là. Arrive à son apogée. D'une manière réelle. 36-37. 38 du chapitre 37. C'est le point culminant de tout ce vers quoi nous avons poussé. Pouvez-vous faire confiance à Yahvé? Oui. Toi. Peu. Mais nous avons ici deux autres chapitres. Et c'est de cela dont nous voulons parler la semaine prochaine. Que se passe-t-il dans ces deux prochains chapitres? Prions. Seigneur Jésus. Merci. Vous avez prouvé que nous pouvons vous faire confiance. Pas en tuant 185 000 soldats ennemis. Mais en donnant sa propre vie. Pour nous. Merci. Merci. Et nous voudrions vous le dire. Nous vous faisons confiance. Pardonnez-nous pour toutes ces fois. Quand nous n'agissons pas comme ça. Quand nous sommes consumés par nos angoisses et nos peurs. Quand nous sentons que nous devons travailler assez dur pour nous sauver. Aie pitié de nous, ô Seigneur. Rappelez-nous encore. Vous êtes dignes de confiance. Et aide-nous à vivre dans cette confiance. En ton nom, nous prions. Amen. C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 18. Ésaïe chapitre 36 et 37.